Et imaginez que là, dans l'église, rentre Jésus en chair et qu'il se mette à prier pour vous, pour nous, son église. Quel effet ça vous ferait? Il prie pour vous, devant vous. Eh bien, c'est ce qu'il a fait devant ses apôtres. Jésus a parlé du Père, de Dieu son Père au sien. Et le moment maintenant est venu de parler à Dieu des siens, de son Église. Dans une prière, une magnifique prière qui est dans la parole qu'on appelle la prière sacerdotale. Alors, je ne vais pas être dans Marc aujourd'hui, mais c'est dans la continuité. On est dans la même chronologie, un peu avant la crucifixion et après donc l'annonce de la trahison de Judas et donc le dernier repas. C'est une prière qui est d'autant plus remarquable que Jésus donne dans cette prière sa dernière volonté, avant donc sa passion, avant sa crucifixion, avant sa mort imminente. Jésus donc dans cette prière va prier pour ses disciples, devant ses disciples, avec un but bien précis pour leur donner de l'espérance, parce qu'ils vont bientôt être séparés, avant donc la douleur de la séparation. Et donc, imaginez les disciples en entendant cette prière, ils ont dû se sentir d'autant plus aimés de lui, et donc aimés de Dieu, avant même que Jésus passe par la croix. Il n'était pas encore allé à la croix. Mais imaginez comment ils ont dû se sentir, de l'entendre prier pour eux. Ils vont entendre dans cette prière comment Jésus les voit, alors qu'ils ne sont pas encore devenus comment Jésus les voit. Pour qu'ils deviennent comment Jésus les voit et comment Jésus veut qu'ils deviennent et que nous devenions. Alors je vous invite à lire cette prière, elle est dans l'évangile de Jean, chapitre 17. Je lirai un peu plus haut à partir du chapitre 16, verset 30 et tout le chapitre 17. Donc une prière qui est non seulement pour les apôtres, les disciples présents avec lui, mais qui est aussi pour nous. Donc lisons cette prière en nous sentant concernés aussi. Donc l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 30. Et je vais prier avant. Seigneur, je te remercie parce que tu nous as laissé ta parole. Seigneur, que nous y prêtions attention, parce qu'elle nous montre ton cœur pour nous, Seigneur. Elle nous montre ton plan. Et Seigneur, qu'elle pénètre en nous, et vraiment que nous soyons pleinement disposés à la recevoir, avec tous nos soucis, nous les laissons à l'extérieur de nous-mêmes et de ce lieu, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Donc Jean 16, verset 30. Donc Jésus n'a pas encore commencé à prier. Les disciples qui parlent. « Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, « Vous croyez maintenant. Voici que l'heure vient et même elle est venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. » Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils les ont vraiment reconnues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde, et moi je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, je gardais en ton nom ce que tu m'as donné. Je les ai préservés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant je vais à toi et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et moi je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi je sois en eux. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. C'est une magnifique prière, et vraiment je vous invite à la relire tranquillement, à la méditer, à la mâcher, hein, vraiment. Parce qu'elle indique tout le plan de Dieu, pourquoi Jésus est venu. Une phrase pour résumer ce texte, c'est que Jésus est sorti de Dieu pour nous faire rentrer avec lui dans la présence de Dieu. Jésus est sorti de Dieu pour nous faire rentrer avec lui dans la présence de Dieu. Avant de commencer sa prière au chapitre 17, un peu plus haut au chapitre 16, Jésus vient de dire à ses disciples quelque chose qui n'est pas très réjouissant. Il vient de leur dire qu'il allait les quitter pour aller vers le Père, qu'ils allaient être dispersés, qu'ils le laisseront seul et qu'eux-mêmes auront des tribulations dans le monde. Pas très réjouissant. Mais pourquoi leur dit-il cela? Pour les inquiéter? Non, bien au contraire. Il leur dit tout ça pour que, verset 33, pour qu'ils aient la paix en lui. Pour qu'ils aient la paix en lui. Et qu'ils prennent courage parce que lui a vaincu le monde. Donc je vous invite à voir en détail cette prière. Il y a trois parties hein, que je vois dans cette prière. Premièrement, c'est la prière de Jésus pour lui-même, nous verrons. Deuxièmement, nous verrons sa prière pour les disciples. Et troisièmement, nous verrons sa prière pour l'Église, pour toute l'Église, de tous les temps. Donc premièrement, voyons la partie de Jésus, la partie de prière qui concerne Jésus lui-même dans sa prière. Donc c'est le Fils, Jésus, qui s'adresse au Père, à son Père. Dieu le Fils s'adresse à Dieu le Père. Il lui demande, donc le Fils, demande au Père de le glorifier pour que lui-même le glorifie. En ce que le Père, qui a pouvoir sur toute chair, lui a donné ses disciples. Versets 1 et 2. C'est le Père qui lui a donné ses disciples. Jésus dit qu'il avait déjà sa gloire auprès du Père, avant que le monde fût. Et là, il demande à son Père qu'il le glorifie de cette même gloire, verset 5. Il y a quand même une différence. Alors, bien sûr, Jésus est pleinement glorieux. Toutefois, dans l'histoire du monde, il y a cette différence qui n'est pas des moindres, que Jésus fait cette demande en tant qu'homme qu'il n'était pas avant. Jésus prie son Père qu'il le glorifie en tant qu'homme qu'il n'était pas avant. Et on va voir quelle portée ça a pour nous, l'incarnation. Aussi, Jésus s'affirme être le Christ. Il s'appelle lui-même Jésus-Christ, au verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et c'est la seule et unique fois dans les évangiles où Jésus se nomme lui-même le Christ. C'est la seule fois. Alors, le Christ, eh bien, tout cela, les disciples sont là, ils entendent sa prière. Tout cela ne fait que confirmer aux oreilles des disciples et aussi à nos oreilles que Jésus est Dieu. Ça ne fait que confirmer sa divinité et qu'il est le Christ. Dieu fait homme, qu'il est le Messie, celui que Dieu avait promis et choisi et qu'il a envoyé. Et qu'il est non seulement le rédempteur d'Israël, mais le rédempteur du monde. Alors là, en entendant cela, imaginez les disciples, ils ont dû déjà être rassurés. Avant cette séparation, peut-être ils étaient inquiets, mais là ils ont dû être rassurés. Jésus est Dieu, il est Dieu, il est le Messie. Ils l'entendent dire de sa propre bouche. Et puis les disciples, en entendant Jésus dire « Père, l'heure est venue », eh bien là aussi, ils ont pu comprendre le timing parfait de Dieu. L'heure est arrivée. Ils ont pu comprendre que plus d'une fois, si les chefs religieux avaient essayé de mettre la main sur Jésus, qu'ils n'y ont pas réussi, c'était parce que l'heure n'était pas encore venue, parce que Dieu était au contrôle. Voilà de quoi encore les rassurer. Voilà encore de quoi les rassurer. Parce que, comme quoi, eh bien, Dieu est au contrôle. Et rien n'arrive sans qu'il ne le permette à l'heure où lui l'a décidé, quoi qu'il arrive dans nos vies. Croyons qu'il est au contrôle. Et là, je parle pour les enfants de Dieu. Et aussi, pour, bien sûr, les non-croyants ne le savent pas, mais il est aussi au contrôle. Dieu est aussi au contrôle. Au verset 4, on apprend que Jésus a glorifié son Père, comment ? En achevant sa mission, en achevant l'œuvre, la mission que le Père lui avait confiée. Quelle est-elle, cette mission ? C'était celle de donner la vie éternelle à tous ceux que le Père lui a donnés, verset 2. Donc le Père avait déjà choisi. Il nous avait déjà choisi, ses enfants. Et sa mission, c'était de nous donner la vie éternelle. Mais il y a de quoi trouver ça étonnant. Il y a quelque chose qui est quand même étonnant. Jésus a dit qu'il a achevé son œuvre, il a achevé sa mission. Il a seulement 33 ans. Il parle de sa mort prochaine. Et il a formé, non pas 2000 disciples, il a formé 12 disciples. C'est étonnant. Et il a fini sa mission. Parce que c'est les disciples qui allaient continuer sa mission. La mission de Jésus n'était pas de chercher à soulager toutes les misères du monde instantanément. Il est venu dans un corps, donc il ne pouvait pas être partout à la fois, il était limité. Beaucoup de gens attendaient un Messie politique qui régnerait sur Israël, qui leur donnerait à manger du pain chaque jour et qui répondrait à leurs besoins immédiats. Mais ce n'était pas la mission première pour laquelle Jésus était venu et à laquelle le Père l'avait appelé. Cette mission, elle avait une portée beaucoup plus grande. C'était celle d'être le sauveur du monde. Jésus se préparait donc à passer par la croix. Il est venu pour ça, il était né pour mourir. Pour nous, au calendrier précis que Dieu avait fixé. Le temps de former 12 disciples. Ces 12 disciples qui prendraient le relais. Et nous, eh bien, nous sommes le fruit de la prière de Jésus pour eux. Rappelons-nous-en parce que dans cette prière, cette prière du chapitre 17, elle s'accomplit et elle s'accomplira dans son intégralité. Si vous voulez connaître le plan de Dieu pour vous, lisez cette prière. Elle s'accomplira. Alors, mon deuxième point, eh bien, voyons la partie de cette prière qui concerne les apôtres, c'est les disciples. Hein. Là, il s'agit des disciples. Alors, les disciples, ils entendent cette prière, ils ont entendu l'objet de la mission de Jésus, ce pourquoi le Père l'avait envoyé, qui est, verset 2, qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que le Père lui a donnés. Et verset 3, et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. S'ils sont devenus disciples, eux donc, hein, à cette époque-là, s'ils sont devenus disciples de Jésus, c'est parce que Dieu le Père les lui a donnés pour qu'ils aient la vie éternelle. Je relis le verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Et ça a une portée aussi pour nous, bien sûr. Mais là, les disciples, imaginez, c'est encore rassurant pour les disciples, parce que ils entendent de la bouche de Jésus qu'ils sont la propriété du Père, qu'ils sont la propriété de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils ont cru que Jésus est sorti du Père, et ils ont cru à sa parole, ils l'ont gardé. Nous, si c'est notre cas, si nous le croyons, eh bien nous sommes aussi la propriété de Dieu. Voilà aussi de quoi nous rassurer. C'est parfois on s'inquiète, qu'est-ce qui va nous advenir ? Pourquoi ? Pourquoi c'est rassurant? Parce que, étant la propriété du Père, nous avons la certitude que Dieu veille sur ce qui lui appartient. Dieu veille sur ce qui lui appartient. Verset 8 du chapitre 17. « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Ici, dans ce verset, Jésus rapporte au Père les paroles mêmes des disciples qu'ils ont dites à Jésus au chapitre 16, verset 30, un peu plus haut. Ils ont cru que Jésus est sorti du Père, et ils ont cru à ses paroles. Et Jésus le dit ces mêmes paroles à son Père. Jésus prie pour nous. Jésus dit à son Père que ses disciples ont reconnu sa divinité. Il est sorti du Père, il est sorti de Dieu, il est lui-même Dieu. Alors, voilà la raison pour laquelle Jésus prie ici pour ses disciples. Et il dit bien qu'il ne prie pas pour le monde. Non pas qu'il n'aime pas le monde, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, mais ici, il prie en particulier pour ses disciples et pour tous ceux aussi qui ont cru en lui, qui ont cru qu'il est Dieu, qu'il est sorti du Père, et qui ont cru en ses paroles. Qui ont cru en ses paroles. Alors ça nous concerne, Jésus a prié pour nous aussi. Jésus les aime, il nous aime, à un point tel, qu'il veut les amener, qu'il veut nous amener en la présence même du Dieu trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit. Pas moins, et je vais y revenir. Pourtant, ses disciples, à bien y regarder, dans les évangiles, ils ont quand même été lents à la détente. Ils ont été lents à la détente pour croire, si vous vous rappelez ce qu'on a déjà vu dans l'évangile de Marc. Il y aurait de quoi les critiquer, ces pauvres disciples. Pourtant, dans sa prière, Jésus fait des éloges de ses disciples. Alors qu'il vient de dire quoi, chapitre 16, verset 31-33, il vient de leur dire qu'ils l'abandonneront, qu'ils le laisseront seul. Pourtant, Jésus va faire des éloges de ses disciples. Imaginez-vous être à la place des disciples en entendant Jésus prier pour vous de cette manière, sans aucun reproche dans sa prière, alors que vous savez que vous n'êtes pas parfait, et moi non plus. Alors que vous savez qu'il connaît vos défaillances, toutes vos défaillances, toutes nos défaillances. Qu'est-ce que ça aurait suscité pour vous d'entendre Jésus prier pour vous de cette manière-là? Très probablement de l'amour, très probablement de la reconnaissance, très probablement, mais Seigneur, je ne suis pas encore comme ça. C'est l'envie de lui plaire, de progresser. Certainement l'envie de devenir tel que Jésus vous voit. Jésus a prié comme il voulait qu'il soit. Et ils n'étaient pas encore là, hein. Ils n'étaient pas encore arrivés à ce stade-là. Et ça a une portée pour nous, l'Église. Parce que nous avons besoin aussi de nous voir. Alors évidemment, on peut constater nos défauts chez les uns et chez les autres. Hein. L'Église n'est pas encore parfaite. Hein. Et pourtant, la prière de Jésus nous invite à nous voir tels que Dieu veut que nous soyons. Ce qu'il va faire de mon frère, de ma sœur. J'ai besoin de le voir avec les yeux de la foi, même si nous ne sommes pas parfaits. Dieu m'invite à voir mon frère, ma sœur, tel qu'il va le faire devenir, tel qu'il sera quand il sera arrivé. Alors, quelqu'un a dit, je me souviens, quelqu'un qui était jeune croyant, il a dit, prenez patience, Dieu n'en a pas fini avec moi, il a dit aux autres. Et Dieu n'en a pas fini avec nous. Les disciples, on a des exemples dans les évangiles, les disciples ont effectivement été transformés par la puissance du Seigneur après sa résurrection. Et bien sûr, on a l'exemple de l'apôtre Pierre qui a renié par trois fois son Seigneur. Et Dieu l'a restauré. Pierre est devenu comme Dieu a voulu qu'il soit, malgré ses failles. N'en doutons pas, Dieu a exaucé et il exaucera parfaitement la prière de son Fils pour nous. Il exaucera parfaitement cette prière. Alors qu'est-ce que Jésus demande pour ses disciples dans sa prière? Eh bien oui, Jésus s'apprête à quitter ce monde. Mais les disciples, ils vont y rester. Et imaginez leur trouble, leur peur. Si Jésus, le Fils, a prié pour eux, devant eux, c'est justement pour les fortifier avant son départ. Et aussi, ça va plus loin que ça, c'est aussi pour qu'ils aient revenu une joie. Non seulement une paix, mais une joie, et une joie parfaite. Regardez le verset 13 du chapitre 17. Une joie parfaite, je la relis. « Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, c'est-à-dire devant les disciples et aussi devant nous, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » Jésus prie pour eux, devant eux, pour qu'ils aient, que nous ayons, la joie parfaite, qui est celle de Jésus, qui est la joie de Jésus. Pourquoi elle est parfaite? Et dans sa prière, Jésus ne prie pas que Dieu les retire du monde, ses disciples, mais qu'il est, dans sa prière, elle est précise, il prie que Dieu les garde séparés du mal, tout en étant dans un monde corrompu. Et vous savez combien c'est difficile de vivre sa foi dans un monde corrompu. On a parlé tout à l'heure, Pascal a évoqué la théorie du genre, c'est-à-dire contre-courant aujourd'hui de ce que pense le monde. C'est pas facile. Et certains, bien sûr, sont persécutés à cause de leur résistance. Mais Jésus prie donc que Dieu les garde séparés du mal tout en étant dans un monde corrompu. Séparés du mal. Être mis à part pour Dieu. Être mis à part pour Dieu, ça s'appelle être saint. Être saint, c'est pas être devenu subitement parfait. Être saint, c'est ce que Dieu veut pour nous. Et nous sommes saints, non pas parfaits, mais nous sommes mis à part, nous sommes séparés pour Dieu. C'est la définition biblique d'être saint, être mis à part pour Dieu. Alors, puisque Jésus a prié dans ce sens, il est possible d'être saint dans un monde corrompu. Jésus a prié pour ça. Et ce, pour deux raisons. C'est possible pour deux raisons. Pardon. Déjà parce que Jésus a prié pour leur sanctification et pour la nôtre. Jésus a prié pour ça. Sa prière sera exaucée. Et aussi, il a prié qui ? Il a prié Dieu trois fois saint. Il appelle son Père, il appelle Dieu Père Saint. C'est celui qui est saint qui nous gardera saint. C'est parce que Dieu lui-même est saint, même trois fois saint, séparé du mal, qu'il peut nous garder séparés du mal. Et il le fera. Autre raison pour laquelle nous sommes saints, parce qu'il prie Dieu, le Père qui est saint, parce qu'il prie, et aussi parce que Jésus s'est sanctifié pour nous. Il dit qu'il se sanctifie pas pour lui, parce que Jésus est déjà saint. Il dit qu'il s'est sanctifié pour eux, pour nous. Il s'est sanctifié. Comment Jésus se sanctifie-t-il pour nous ? Merci. Jésus s'est sanctifié pour eux et pour nous aussi. Comment ? Eh bien, par son sacrifice qu'il allait accomplir juste après, en mourant sur la croix, pour nous, pour que nous soyons pardonnés de nos péchés. Imaginez les disciples entendre Jésus dire deux fois dans sa prière « Ils ne sont pas du monde », verset 14 et verset 16, « Ils ne sont pas du monde ». Imaginez Jésus dire ça de vous. Ça nous interpelle, nous ne sommes pas du monde. Et ça nous interpelle, où sont nos centres d'intérêt ? Est-ce que mon centre d'intérêt, il est sur la terre, dans les plaisirs de cette terre, ou est-ce que mon centre d'intérêt, il est au ciel ? En Dieu. Nous ne sommes pas du monde. Si nous aimons les choses du monde, c'est quelque chose qui ne va pas. Mais nous devons nous voir comme n'étant pas du monde. Les disciples ont été témoins que Jésus les a gardés par le passé. Alors, ils peuvent avoir confiance que même quand il s'en ira, c'est le Père qui va les garder à l'avenir. Et nous aussi. Ayons confiance que le Seigneur nous garde. Nous sommes sa propriété. Il nous gardera. Malgré la haine du monde menaçante envers les chrétiens dans le monde. Alors, Jésus n'a pas prié que les croyants soient retirés du monde. Mais il a prié qu'ils soient envoyés dans le monde. Qu'ils soient expressément envoyés dans le monde. Pourquoi ? Pour y annoncer l'évangile. C'est pour ça que Jésus est venu. Jésus a été envoyé du Père, verset 18, pour nous envoyer à notre tour. Alors oui, aller dans le monde, partager l'Évangile, pour cela nous avons besoin d'être sanctifiés. Nous avons besoin d'être sanctifiés, de nous savoir sanctifiés. Nous ne sommes pas parfaits, mais Jésus s'est sanctifié pour nous en donnant sa vie. Lorsque nous annonçons Jésus à quelqu'un, notre parole aura plus de poids si nous vivons l'Évangile, si nous avons le désir de plaire à Dieu, en étant dans la vérité, dans la parole du Seigneur. Il les a envoyés dans le monde, et nous sommes le fruit de leur travail, mais pas seulement, c'est de ceux qui sont venus immédiatement après. Jésus ne se limite pas à prier pour les disciples à côté de lui. Verset 20, il dit « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Nous sommes de ceux-là. » Pour qui Jésus prie-t-il ici ? Eh bien pour nous, pour son Église. Nous sommes venus grâce au témoignage des apôtres. Alors mon troisième point, c'est la partie de la prière de Jésus qui concerne toute son Église. Et là, nous allons voir l'intention de Dieu pour son Église, qui est magnifique. Regardez dans quel but Jésus prie-t-il pour son Église. Regardons le début du verset suivant, donc verset 21. Quel est le but de Dieu ? Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je le suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Jésus prie pour l'unité des chrétiens. Aussi bien les disciples qui ont connu Jésus en chair que pour nous, son Église, qui l'avons connu après, suite à leur témoignage. Jésus prie pour l'unité de son Église. Alors, sur quoi est-elle fondée, cette unité ? Sur quoi est-elle fondée ? Sur Dieu lui-même. Sur Dieu lui-même. Et attendez, c'est quand même assez énorme. C'est quand même assez énorme, cette prière. Jésus est en train de dire que l'unité du peuple de Dieu est fondée sur l'unité du Dieu un en trois personnes. Unité de l'Église fondée sur l'unité du Dieu trinitaire. Pas moins. Père, Fils, Saint-Esprit. Dieu est un de par sa nature. Dieu un en trois personnes. L'unité de l'Église, c'est aussi une unité de nature, parce qu'elle nous est donnée. On n'a pas à la fabriquer, Dieu nous la donne. Ce qu'on a à faire, c'est en prendre soin. Je citerai Éphésiens 4, verset 3. L'apôtre Paul nous exhorte à quoi faire ? Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens 4, 3. Conserver l'unité de l'esprit, Dieu nous la donne, cette unité. À nous de travailler pour la conserver, pas pour la fabriquer. Alors peut-être vous vous dites, mais oui, mais elle n'est pas très visible, cette unité, dans le monde chrétien. Vu la diversité du paysage évangélique, vu la diversité du monde chrétien en général. Oui. Mais en tout cas, soyons sûrs qu'elle aura lieu. Parce que Dieu a prié pour l'unité des chrétiens, pour que son Église soit une. Oui, c'est vrai, il y a des divisions, parfois, dans les Églises, qui attristent Dieu. Mais on peut être sûr que l'Église est une, et Dieu la rendra parfaite. Parce que Jésus a prié pour elle. Et Jésus a dit, dans une prière, lorsqu'il a ressuscité Lazare, il a dit, Jean 11, verset 42, « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. La prière de Jésus sera parfaitement exaucée. » L'unité des chrétiens, elle aura lieu. Pas sur n'importe quelle base, elle aura lieu sur la personne de Jésus et sur son œuvre à la croix, sur sa parole. Le Seigneur a prié pour l'unité des chrétiens. Eh bien, en faisant cela, il nous invite, nous aussi, à prier pour l'unité des chrétiens. Est-ce que nous prions pour l'unité des chrétiens ou est-ce que nous nous limitons à voir les différences chez telle dénomination et finalement, et oui, on se dit, mais eux, ils ont tort, nous, on a raison. Mais est-ce que, oui, il y a des choses avec lesquelles on n'est pas obligé d'être d'accord, même des choses qui contredisent clairement la parole et on n'a pas à être d'accord. Mais est-ce que nous prions ? Est-ce que nous prions pour l'unité des chrétiens ? Nous allons bientôt aborder, la semaine prochaine, samedi prochain, je crois, la semaine de l'unité des chrétiens. Voilà, c'est une semaine où plusieurs dénominations se mettent ensemble sur ce qui les unit, pas sur ce qui les divise, dans ce but-là, justement, d'unité. Alors, ça ne veut pas dire faire des compromis, mais au moins, essayer de se connaître jusqu'à certaines limites. Ça ne veut pas dire jusqu'à certaines limites, je dis bien. Et en laissant le Seigneur faire son travail, nous pouvons prier pour l'unité des chrétiens fondée sur le Christ, sur son œuvre, sur sa parole. Cette unité, elle est fondée sur l'unité du Dieu trinitaire et elle est aussi fondée sur plusieurs autres points qui sont dans cette prière. Cette unité, elle est fondée sur la protection de Dieu sur son Église. Verset 11. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné afin qu'il soit un comme nous. Notre unité, elle est fondée sur la protection de Dieu qui nous garde. En quel but que nous soyons un ? Elle est fondée non seulement sur la protection de Dieu, mais aussi sur la gloire de Jésus reçue de son Père. Jésus a reçu la gloire de son Père, et cette gloire, qu'est-ce qu'il en fait ? Il nous la donne à nous aussi, son Église. Mais ça aussi, c'est énorme. Il nous associe à sa propre gloire, en vue de quoi ? En vue de notre unité. Versets 22 et 23, je les relis. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. » Alors si on n'a pas encore compris, Jésus précise « afin qu'ils soient parfaitement un ». Jésus veut une unité totale et parfaite pour son Église. Voilà son but. Mais ce but qui n'est pas la finalité, il y a encore un but plus loin et même deux. Des buts qui sont encore plus grands. Quel est le but qui dépasse encore celui-là, que nous soyons un ? Il y a un but plus élevé qui est au verset 21, qui dépend de celui-là. Un peu plus haut, verset 21, nous lisons « Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Pourquoi » Pourquoi ? Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. L'unité de l'Église doit amener les autres à croire. Jésus veut une unité totale et visible de son Église pour que le monde croie en lui, le Fils envoyé du Père. Alors, peut-être vous ne vous sentez pas l'âme d'un évangéliste, mais vu sous cet angle-là, l'évangélisation, ce n'est pas si compliqué. L'évangélisation, il suffit de vivre l'unité dans l'Église. Aux yeux du monde, si le monde le voit, ils vont avoir envie de vivre ça. Si les non-croyants voient des gens de culture, d'arrière-plan différents, qui ne se sont pas choisis, et qui sont ensemble pour louer le Seigneur, parce qu'ils aiment le Seigneur, Jésus mort et ressuscité pour tous, c'est le Seigneur qui nous a réunis, eh bien, eux aussi devraient avoir envie de se joindre à ce peuple. Il y a quand même une condition pour cela, il faut que nous désirions vivre l'Église. Saisir les occasions de nous rencontrer. Et bien sûr, chacun a ses contraintes familiales, professionnelles, il y en a qui travaillent le dimanche. Il y a des activités dans l'Église où nous pouvons choisir aussi de nous réunir avec nos frères et sœurs. C'est cela qui devrait attirer les non-croyants. Cette unité, elle est possible. Qu'est-ce qui rend possible cette unité dans la foi ? Si on creuse, eh bien c'est justement l'amour. C'est l'amour. D'abord, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu le Père pour son Fils bien-aimé. Et l'amour de Dieu pour son Église. Voilà ce qui rend possible l'unité dans la foi. Alors peut-être vous vous demandez quel est le rapport entre l'amour de Dieu pour son Fils et l'amour de Dieu pour son Église. Regardons la fin du verset 23 qui est aussi énorme. La fin du verset 23. Jésus donc dit le but de Dieu pour son Église. Verset 23, la fin. « Afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Vous réalisez, Dieu nous aime du même amour qu'il aime son Fils. Jésus dit là que Dieu aime son Église du même amour qu'il aime son Fils. Et il veut que cet amour soit dans nos cœurs. Et Jésus le redit au verset 26. Je lis. « Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » C'est l'amour de Dieu, le ciment. Alors recevoir un tel amour qui est celui de Dieu pour son propre Fils ne laisse pas indemne et ne laisse pas indifférent. Recevoir un tel amour ne peut que se voir et ne peut que rejaillir sur les autres. On ne peut pas l'enfermer, cet amour. Il ne peut pas rester enfermé. Parce que c'est cet amour divin qui non seulement crée l'unité dans l'Église, mais qui aussi va la faire grandir, l'Église, qui va la faire croître. Unité dans l'Église, pour que le monde la voie, que le monde pénètre l'Église, mais ce n'est pas non plus le but final de Dieu. Regardez, la croissance de l'Église n'est pas le but final de Dieu, le but final il est encore plus énorme. Puisque le Père nous aime du même amour qu'il aime son Fils, eh bien Jésus nous veut avec lui, dans son cercle intime, avec son Père et le Saint-Esprit. Dieu le Père nous aime du même amour qu'il aime son Fils, eh bien il veut nous intégrer dans l'intimité, dans son intimité, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est ce qu'il demande au Père. Verset 24, regardez verset 24. « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. » Dieu nous veut, Jésus nous veut dans l'intimité, dans son intimité, Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Comment est-ce possible? Nous ne sommes que des hommes, des femmes, des humains. Eh bien, c'est possible parce que Jésus s'est incarné. Jésus a introduit notre humanité dans la Trinité en s'incarnant lui-même, en devenant homme. Lui, le Messie, le Christ, il est à la fois Dieu le Fils et le Fils de l'homme. Il est mort pour nos péchés, il est ressuscité, il est remonté au ciel auprès de Dieu, mais là, il est remonté auprès de Dieu d'où il est sorti, il est remonté avec quelque chose en plus. Il est remonté avec son humanité, qui est notre humanité. C'est pourquoi il nous veut avec lui. Il est remonté au ciel dans une forme nouvelle, qui est celle d'un corps glorifié, un corps humain glorifié. Et c'est ce qui nous attend, frères et sœurs. Un corps humain glorifié, pour être auprès de Dieu. Alors pour terminer, on pourrait résumer ainsi le but de Dieu. Le Père a envoyé son Fils, Jésus, pour nous sauver, pour que quiconque croit en lui le connaisse et entre dans sa présence, de sorte que le monde le voit dans son Église et croit à son tour pour entrer à son tour dans sa présence. Je le relis. Le Père a envoyé son Fils Jésus pour nous sauver, pour que quiconque croit en lui le connaisse et entre dans sa présence, de sorte que le monde le voit dans son Église et croit à son tour pour entrer à son tour dans sa présence. Voilà le but de Dieu pour l'humanité. Et c'est donné, pas à tous, mais à ceux qui le. Comme les disciples ont cru, ont reçu, ont cru que Jésus est sorti du Père et ont cru en sa parole. C'est le cercle vertueux de l'amour et de la croissance. Je vais prier. Merci Seigneur de nous avoir laissé ta parole et de nous avoir laissé, Seigneur, tes dernières volontés, Seigneur, pour ton Église dans cette magnifique prière. Merci Seigneur. Parce que, Seigneur, ton plan, il est magnifique. C'est vrai, tu es venu pour nous laver de nos péchés. Et merci de ce que ça t'a coûté sur la croix. Et Seigneur, quand nous voyons la portée d'un tel sacrifice, que Seigneur, tu veux sauver un grand nombre, Seigneur, pour nous avoir avec toi, pour nous faire partager ta gloire, Seigneur. Aide-nous à le réaliser, que nos vies en soient transformées, que le monde le voit, et Seigneur, et que nous sachions comment répondre à chacun, Seigneur, pour que les gens, ceux que tu mets sur notre route, aient envie de venir à toi. Ce n'est pas chose facile, Seigneur, mais déjà, si nous vivons cette unité dans l'Église et que le monde le voit, et Seigneur, je prie pour ça, que oui, eh bien, ton Église, elle grandisse, elle te glorifie, elle soit fondée sur ton amour, fondée sur ta parole et fondée sur le seul Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen.